Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie a un rôle important dans la lutte contre les mouvements radicaux. L'Indonésie deviendra un pays de thème Europalia 2017. Rizal Ramli a demandé à Google de développer des applications pour aider les pêcheurs. L'Indonésie souligne l'engagement à jouer un rôle actif dans OMI. BKPM réalise immédiatement un accord entre l'Indonésie et la Belgique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, lors du forum diplomatique tenu par RRI à Jakarta, mardi le 15 mars 2016, a déclaré que l'Indonésie avait un rôle stratégique dans la coopération de la lutte contre le radicalisme. Dans un talk show avec le thème « La coopération mondiale pour faire face au radicalisme », Muazzam a expliqué que par rapport aux autres pays, l'Indonésie possède un bon bilan en termes de suppression de l'escalade des mouvements radicaux. La preuve de ce bon bilan est le moins de nombre de citoyens indonésiens qui se joignent à l'État islamique au Moyen-Orient, la Syrie et l'Irak. Je crois que l'Indonésie est unique et a le rôle très important à jouer dans la communauté mondiale. Parce qu'en Indonésie, nous voyons qu'il y a 300 jusqu'à 700 personnes qui ont quitté pour rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient, en Syrie et à l'Irak. Au Royaume-Uni, il y a 800 Britanniques qui ont quitté pour rejoindre l'État islamique de la population de moins de 3 millions de musulmans. Et par rapport à tous les autres pays, je connais qu'en termes de nombre d'individus rejoignant les combattants extrémistes, le nombre le plus bas est l'Indonésie. Selon Muazzam, le bon bilan de l'Indonésie pour réduire l'escalade des mouvements radicaux se produit grâce au rôle joué par le gouvernement et les grandes organisations islamiques telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Muazzam a ajouté, les efforts de déradicalisation faits par l'Indonésie peuvent être imités par d'autres pays dans le monde. Muazzam a souligné que le radicalisme devait être résolu par l'application de la loi et de la sécurité. L'application de la loi et de la sécurité doit être accompagnée par des efforts visant à changer les idées ou la pensée radicale. Lors du forum diplomatique, outre Muazzam, d'autres conférenciers sont l'ambassadeur du Pakistan en Indonésie, Muhammad Aqil Nadim, le directeur de déradicalisation de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, professeur Dr. Irfan Idris, le président du Conseil indonésien des ulémas chargés des affaires étrangères, Kyai Haji Muhyiddin Junaidi, et l'observateur du terrorisme, Muhammad Nasir Abbas. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a déclaré que l'Indonésie deviendrait un pays des thèmes de l'exposition internationale d'art et de la culture appelée Europalia en 2017, qui aura lieu en Belgique et plusieurs pays européens pendant 4 mois. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors d'accepter la visite de courtoisie de la princesse Astrid de la Belgique au palais présidentiel le mardi. La ministre Retno a expliqué que cette exposition n'impliquerait pas seulement la Belgique, mais aussi d'autres pays européens. Europalia est une exposition bisannuelle d'art et de culture en Europe, et selon Mme Retno, les pays européens ont choisi l'Indonésie comme un pays de thème parce que l'Indonésie est un grand pays avec divers arts et cultures. Le ministre de Coordination Maritime, M. Rizal Ramli, a demandé à Google de développer des applications mobiles pour aider les pêcheurs indonésiens. C'est ce qu'a affirmé Rizal Ramli après avoir reçu le chef de la direction du projet Loon de Google, Mike Cassidy, dans son bureau à Jakarta mardi. Rizal Ramli a demandé à l'entreprise des services et des produits d'Internet de développer les applications sur la météo, qu'elle développe Internet application météo. Les zones de pêche, jusqu'à ce que le marché du poisson qui peuvent être accédés par les pêcheurs. Il espère que le développement de ces applications peuvent être soutenu par la mise en œuvre du projet de ballon d'Internet pour être fait laissé par Google en Indonésie, à savoir projet Loon. Rizal Ramli espère également avec le développement du projet Loon, comme les applications mobiles soutenant, les pêcheurs seront en mesure d'obtenir des informations sur la météo, les zones de pêche et les pêcheurs peuvent vendre directement leurs poissons. Ce projet sera testé pendant 1 an dans l'est de l'Indonésie et sera commencé cette année. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Organisation Maritime Internationale, ou OMI, M. Rizal Sukma, qui est aussi l'ambassadeur de l'Indonésie à la Grande-Bretagne et d'Irlande, a exprimé l'engagement de l'Indonésie à jouer un rôle actif en tant que membre de l'OMI. C'est ce qu'a déclaré par Rizal Sukma quand il a soumis une lettre de reconnaissance au secrétaire général de l'OMI, Kitaj Lim, à Londres mercredi. L'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Didin Wahyudin, a déclaré que l'existence de l'OMI était très importante pour l'Indonésie, que la plupart de son territoire se trouve dans les eaux entre les deux océans et deux continents. Kitaj Lim a déclaré qu'il était prêt à coopérer avec l'Indonésie dans le domaine de la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution marine par les navires. Comme l'un des agents spécialisés de l'ONU, l'OMI donne également des solutions à d'autres problèmes qui se produisent dans l'océan, tels que le changement climatique et la migration humaine. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, réalise immédiatement l'accord entre l'Indonésie et la Belgique pour renforcer la coopération dans le domaine de l'investissement. Cela a été déclaré par le chef de BKPM, M. Franky Sibarani, au palais présidentiel mardi à Jakarta. La réunion du président Joko Widodo avec la délégation du Royaume de Belgique, dirigée par la princesse Astrid au palais présidentiel le mardi, a convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de commerce et d'investissement. Selon Franky, cette réunion est importante pour l'Indonésie afin d'augmenter les investissements étrangers dans ce pays. BKPM donnera le soutien au processus d'investissement à travers les changements de réglementaire et les réformes en Indonésie. Dans le domaine des énergies renouvelables, la technologie de la centrale éolienne de la Belgique possède des avantages par rapport aux autres pays et déjà largement utilisé par les pays européens. Franky a déclaré que dans la réunion avec l'ambassadeur de Belgique la semaine prochaine, il va également expliquer des programmes du gouvernement. liés à l'intérêt d'investissement de la Belgique, l'Indonésie donne attention à certains domaines, tels que la technologie de communication et de l'information, la nourriture maritime, hôtellerie et l'énergie renouvelable. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Négociations de Genève de deuxième partie pour l'avenir ». Comment l'avenir de la Syrie? Personne ne peut répondre. Le conflit qui dure depuis 5 ans dans le pays n'est pas terminé. Il y a 3 parties belligérantes, à savoir le régime du président Bachar al-Assad, les combattants qui opposent Assad et ISIS qui prétendent avoir occupé le nord et l'ouest du pays. Divers efforts ont été faits par l'Occident, la Russie et les pays du Moyen-Orient pour résoudre le problème syrien, mais n'a pas réussi. La Russie a montré une réponse assez agressive en envoyant des troupes en Syrie après avoir vu l'offensive aérienne de l'Ouest dans les territoires occupés par ISIS. Mais contrairement à l'attaque de l'Occident, la réponse de la Russie est dirigée vers la milice qui lutte contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Cela rend le conflit en Syrie comme une guerre triangle. Les milices luttent contre le régime al-Assad et ISIS. La Russie aide Assad à combattre les milices et ISIS. Cependant, ISIS lutte contre eux et n'importe qui. Mardi le 15 mars 2016, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la retraite des troupes russes parce qu'il se sent l'objectif a été atteint. Auparavant, Poutine a fait une conversation téléphonique avec le président syrien Bachar al-Assad et le président américain Barack Obama et a révélé le plan. La Russie a commencé des frappes aériennes en septembre dernier pour soutenir le régime syrien dans un conflit qui a duré si longtemps. Le résultat est un quart de million de personnes sont mortes. Plus de 80 000 victimes sont des civils, y compris 13 enfants. Environ 13 millions de personnes ont été forcées de quitter leur maison. Cela signifie que plus de la moitié de la population syrienne sont devenus des réfugiés. La guerre provoque aussi l'économie syrienne à chuter. Les sources de revenus telles que le pétrole ont été stoppées et infrastructures ont été détruites. L'économie ne développe pas parce que l'industrie et l'entreprise sont fermées. Depuis le début du conflit, les recettes d'exportation ont chuté de 90%, aggravées par les sanctions internationales qui font le peuple syrien plus souffre. Les retraites des troupes russes sont des bonnes nouvelles parce qu'un parti avait retiré 12 champs de bataille en Syrie. Mais le conflit n'est pas encore terminé. Trouver la solution du problème syrien est le thème à la réunion de Genève de deuxième partie qui a été commencée au début de cette semaine. Cette réunion est organisée pour connecter la première réunion dans la même ville au début de février. La réunion a duré une seule journée et terminée par un échec parce que les forces du régime du gouvernement assistées par les attaques aériennes russes ont frappé les milices de l'opposition du gouvernement. Maintenant, on donne attention à la résolution de la question syrienne à Genève. Les parties en conflit sont d'accord pour rencontrer, mais ils proposent des conditions. La communauté internationale souhaite la réunion de Genève de deuxième partie puisse produire une formule qui peut donner une bonne solution initiale à toutes les parties au conflit. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serge Thor, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement sur le massacre de masse au sud de Vietnam par les soldats américains le 16 mars 1968. Les soldats américains ont tué en masse 200 à 500 habitants du village de Mai Lai 4 au nord du sud du Vietnam. Le village de Mai Lai 4, situé dans la zone qui était infiltrée par beaucoup de Vietcong. Une opération est donc décidée pour les éliminer le 16 mars 1968. Le lieutenant William Calais encercle Mai Lai. Les services de renseignement militaire américains l'ont prévenu que les villageois vont au marché ce jour-là. Calais pense donc que ceux qui restent sont des Vietcong. Il reçoit l'ordre, ou comme il le dit plus tard à son procès, de nettoyer la zone du vieillard au bébé. Il regroupe la population, fait incendier le village et donne l'ordre d'abattre toute la population, femmes, enfants et vieillards. Les troupes américaines pénètrent dans le village et arrivent à le boucler totalement sans trouver un seul combattant vietnamien. Les soldats américains ont ensuite donné libre cours à leur colère en tuant les villageois qui n'étaient pas armés. Un pilote d'hélicoptère de l'armée américaine, Hugh C. Thompson Jr., et ses deux coéquipiers qui survolaient la zone par hasard tentent d'intervenir pour mettre fin à ce massacre. Ils ne peuvent sauver qu'une douzaine de villageois en les embarquant à bord de leur hélicoptère. Un an plus tard, le soldat Ron Ridenhour, stupéfié par le témoignage d'un participant du massacre, révèle cette atrocité commise par les Américains au Vietnam. En 1971, une enquête suivie d'un procès a abouti à la condamnation du lieutenant William Kelly à la prison à vie pour meurtre prémédité. Mais finalement, il a été gracié et emprisonné seulement pendant quelques années. Notre information est sur le naufrage de la Moco Cadiz, 16 mars 1978. Le super tanker américain à Moco Cadiz fait route vers Rotterdam quand, à 9h45, l'homme de bord prévient le capitaine que le gouverneur ne répond plus. Le navire s'échoue peu de temps après sur les rochers de Port Stal dans le nord Finistère. Plus de 200 000 tonnes de fuel brut s'en échappent. Les 42 hommes d'équipage sont sauvés avant que le bateau ne sombre. 360 km de côte seront souillés par les nappes de pétrole et 200 000 hectares de surface marine polluée. Le capitaine de la Moco, Pasquale Bardari, sera placé sous contrôle judiciaire. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le bombardement de Halabja, 16 mars 1988. La ville kurde d'Halabja est bombardée avec les armes chimiques utilisées contre l'Iran. Ainsi, pour la première fois, un État utilise ses agents chimiques contre sa propre population. Le bilan est catastrophique. On compte 5000 morts, femmes, hommes et enfants. Les images font le tour du monde. Un tel massacre intervient dans le cadre de la répression contre les Kurdes qui ont profité de la guerre Iran-Irak pour reprendre la lutte contre Saddam Hussein et pour leur autodétermination. En effet, quelques jours auparavant, la ville d'Halabja avait été prise par les Peshmerga ou Macky Sall de l'Union patriotique de Kurdistan, auxquels s'étaient ralliés les gardiens de la révolution iranienne ou Pasdaran. Sergiteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième longtemps, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre Les étals de nourriture et la bibliothèque acceptent les déchets pour le paiement. L'existence des étals de nourriture avec des instruments de paiement de déchets en plastique devient la discussion de la communauté de Semarang, la province de Java Central. En affaire culinaire unique gérée par Sarimine, 54 ans, avec sa femme Soyatmi depuis janvier de cette année. En raison de cet étal de nourriture est situé à l'enfouissement des déchets de Jatibarang, le district Mijen, pas étonnant que la plupart des clients sont des charognards. Selon Sarimine, les charognards fournissent suffisamment de déchets en plastique, autant que 15 à 20 kg, pour payer la nourriture commandée. Le prix d'un kilo de déchets en plastique est 400 rupiah. La façon de paiement unique a attiré l'attention du maire de Semarang, Hendrar Prihadi. Le maire de Hendrar Prihadi a visité l'état de nourriture de Sarimine lundi dernier et a mangé là-bas. Hendrar Prihadi a affirmé que le système de paiement de cet étal était une forme d'autonomisation des citoyens à travers les déchets en plastique. D'ailleurs, cela peut être activé l'économie. Les citoyens ont été informés de la compréhension des déchets en plastique pour le rendre plus utile. Hendrar Prihadi est fier de la créativité de son citoyen. Il a ajouté, charognards peuvent être aidés tout en réduisant le problème des déchets en plastique et le succès des programmes gouvernementaux à réduire les déchets en plastique. Dans la résidence de Semarang, il y a aussi une bibliothèque qui met en œuvre une politique d'empreinte des livres payés les déchets. La bibliothèque est située sur les pentes du mont Ungaran, précisément dans le village de Kalisidi, Ungaran Ouest, la résidence de Semarang. Il paraît que cette bibliothèque est normale. Des étagères et des livres d'histoire, les livres de connaissances et des livres de compétences sont bien ordonnés. Cependant, l'unicité est vue lorsque les enfants du village sont venus. Ils portent les bouteilles ou emballages en plastique. La bibliothèque du village Kalisidi facture des frais pour chaque membre qui veut emprunter un livre. Le paiement n'est pas avec l'argent, mais avec les déchets en plastique. Chaque emprunteur de livre soit apporté une bouteille en plastique ou 3 verres en plastique ou 5 feuilles de pellicule en plastique ou bidon en plastique. Chaque enfant peut emprunter 2 à 3 livres par jour. La collection de cette bibliothèque est d'environ 3000 titres qui sont presque entièrement des subventions d'autres parties. Le coordinateur de la bibliothèque, Farah Awalia Cendana, a révélé que la bibliothèque payée des déchets fonctionne pendant 3 ans. L'idée de combiner la bibliothèque avec les banques de déchets provenait de sa préoccupation envers la sensibilisation du public sur la propriété qui est encore faible. Beaucoup de déchets ménagers sont jetés à n'importe où, y compris les déchets en plastique. Pendant ce temps, d'autre part, l'intérêt pour la lecture des enfants au village est assez élevé, qui a émergé le concept de louer des livres dans la bibliothèque avec les ordures comme moyen de paiement. En conséquence, à ce moment, les enfants sont conscients de l'hygiène, en particulier en ce qui concerne les déchets en plastique, et l'environnement de village est plus beau, libre de déchets en plastique. Serge-Tard, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, lors du forum diplomatique tenu par RRI à Jakarta, mardi le 15 mars 2016, a déclaré que l'Indonésie avait un rôle stratégique dans la coopération de la lutte contre le radicalisme. Dans un talk show avec le thème « La coopération mondiale pour faire face au radicalisme », Muazzam a expliqué que par rapport aux autres pays, l'Indonésie possède un bon bilan en termes de suppression de l'escalade des mouvements radicaux. La preuve de ce bon bilan est le moins de nombre de citoyens indonésiens qui se joignent à l'État islamique au Moyen-Orient, la Syrie,
I believe Indonesia has a very unique and a very important role to play.
Je crois que l'Indonésie est unique et a un rôle très important à jouer dans la communauté mondiale. parce qu'Indonésie, nous voyons qu'il y a 300 jusqu'à 700 personnes qui ont quitté pour rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient, en Syrie et à l'Irak. Au Royaume-Uni, il y a 800 Britanniques ont quitté pour rejoindre l'État islamique de la population de moins de 3 millions de musulmans. Et par rapport à tous les autres pays, je connais qu'en termes de nombre d'individus rejoignant les combattants extrémistes, le nombre le plus bas est l'Indonésie. Selon Mouazzam, le bon bilan de l'Indonésie pour réduire l'escalade des mouvements radicaux se produit grâce au rôle joué par le gouvernement et les grandes organisations islamiques telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Mouazzam a ajouté, les efforts de déradicalisation faits par l'Indonésie peuvent être imités par d'autres pays dans le monde. Mouazzam a souligné, le radicalisme devait être résolu par l'application de la loi et de la sécurité. L'application de la loi et de la sécurité doit être accompagnée par des efforts visant à changer les idées ou la pensée radicale. Lors du forum diplomatique, outre Mouazzam, d'autres conférenciers sont l'ambassadeur du Pakistan en Indonésie, Muhammad Aqil Nadim, le directeur de déradicalisation de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, professeur Dr. Irfan Idris, le président du Conseil indonésien des ulémas chargés des affaires étrangères, Kyai Haji Muhyiddin Junaidi, et l'observateur du terrorisme, Muhammad Nasir Abbas. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a déclaré que l'Indonésie deviendrait un pays de thème de l'exposition internationale d'art et de la culture appelée Europalia en 2017, qui aura lieu en Belgique et plusieurs pays européens pendant 4 mois. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors d'accepter la visite de courtoisie de la princesse Astrid de la Belgique au palais présidentiel le mardi. La ministre Retno a expliqué que cette exposition n'impliquerait pas seulement la Belgique, mais aussi d'autres pays européens. Europalia est une exposition bisannuelle d'art et de culture en Europe, et selon Mme Retno, les pays européens ont choisi l'Indonésie comme un pays de thème parce que l'Indonésie est un grand pays avec divers arts et cultures. Le ministre de Coordination Maritime, M. Rizal Ramli, a demandé à Google de développer des applications mobiles pour aider les pêcheurs indonésiens. C'est ce qu'a affirmé Rizal Ramli après avoir reçu le chef de la direction du projet Loon de Google, Mike Cassidy, dans un bureau à Jakarta mardi. Rizal Ramli a demandé à l'entreprise des services et des produits d'Internet de développer les applications sur la météo, qu'elle développe Internet applications météo. Les zones de pêche, jusqu'à ce que le marché du poisson qui peuvent être accédés par les pêcheurs. Il espère que le développement de ces applications peut être soutenu par la mise en œuvre du projet de ballon d'Internet pour être fait laissé par Google en Indonésie, à savoir projet Loon. Rizal Ramli espère également avec le développement du projet Loon, comme les applications mobiles soutenant, les pêcheurs seront en mesure d'obtenir des informations sur la météo, les zones de pêche et les pêcheurs peuvent vendre directement leurs poissons. Ce projet sera testé pendant 1 an dans l'est de l'Indonésie et sera commencé cette année. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Organisation Maritime Internationale, ou OMI, M. Rizal Sukma, qui est aussi l'ambassadeur de l'Indonésie à la Grande-Bretagne et d'Irlande, a exprimé l'engagement de l'Indonésie à jouer un rôle actif en tant que membre de l'OMI. C'est ce qu'a déclaré par Rizal Sukma quand il a soumis une lettre de reconnaissance au secrétaire général de l'OMI, Kitaj Lim, à Londres, mercredi. L'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Didin Wahyudin, a déclaré que l'existence de l'OMI était très importante pour l'Indonésie, que la plupart de son territoire se trouve dans les eaux entre les deux océans et deux continents. Kitach Lim a déclaré qu'il était prêt à coopérer avec l'Indonésie dans le domaine de la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution marine par les navires. Comme l'un des agents spécialisés de l'ONU, l'OMI donne également des solutions à d'autres problèmes qui se produisent dans l'océan, tels que le changement climatique et la migration humaine. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, réalise immédiatement l'accord entre l'Indonésie et la Belgique pour renforcer la coopération dans le domaine de l'investissement. Cela a été déclaré par le chef de BKPM, M. Franky Sibarani, au palais présidentiel mardi à Jakarta. La réunion du président Joko Widodo avec la délégation du Royaume de Belgique, dirigée par la princesse Astrid au palais présidentiel le mardi, a convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de commerce et d'investissement. Selon Franky, cette réunion est importante pour l'Indonésie afin d'augmenter les investissements étrangers dans ce pays. BKPM donnera le soutien au processus d'investissement à travers les changements de réglementaire et les réformes en Indonésie. Dans le domaine des énergies renouvelables, la technologie de la centrale éolienne de la Belgique possède des avantages par rapport aux autres pays et est déjà largement utilisée par les pays européens. Franky a déclaré que dans la réunion avec l'ambassadeur de Belgique la semaine prochaine, il va également expliquer des programmes du gouvernement liés à l'intérêt d'investissement de la Belgique. L'Indonésie donne l'attention à certains domaines, tels que la technologie de communication et de l'information, la nourriture, maritime, hôtellerie et l'énergie renouvelable. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à voyager au Molouk du Nord. Alors, restez toujours avec nous sur la Voie d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre les écoutes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Serviteur, l'élan de l'éclipse solaire totale le 9 mars a réussi à augmenter les visites touristiques, y compris 1157 touristes étrangers. En plus profiter du phénomène d'une éclipse solaire totale, les touristes profitent aussi de la beauté de Ternate. Ils admirent les attractions touristiques à Ternate, à savoir les plages, les patrimoines historiques et culturels et des traces de l'activité volcanique du Mont Gamalama. Des traces de l'éruption du Mont Gamalama peuvent être vues aux objets touristiques du lac Toliré et Batu Angus ou pierre carbonisée en français. Cerita Batu Angus est l'un des objets touristiques excellents de la ville de Ternate. Batu Angus est l'attraction touristique plus recherchée par les touristes domestiques et étrangers. Les touristes qui visitent Ternate visiteront certainement Batu Angus. Batu Angus est situé d'environ 10 km de la ville de Ternate. Ce site touristique peut être atteint en utilisant le transport en commun avec le coût de 3000 rupiah ou en taxi avec le coût de 50 000 rupiah par heure. En arrivant à l'emplacement, vous devez marcher 200 mètres pour arriver à Batu Angus. Batu Angus est l'étendue de pierres qui ressemblait brûlée et s'étend du pied du Mont Gamalama jusqu'à la plage. Ces pierres sont les restes de lave d'une éruption du Mont Gamalama au XVIIe siècle. La lave qui était transformée en pierre qui ressemblait à une pierre qui vient d'être brûlée. C'est pourquoi la communauté locale nomme ce site touristique avec Batu Angus ou pierre carbonisée. Outre une étendue de pierres carbonisées, dans la région de Batu Angus, il y a également un site historique sous la forme d'un lieu de la mort de soldats japonais dont la parachute n'a pas été ouverte normalement. Sagittaire, le paysage intéressant sous la forme de l'étendue de pierres carbonisées est devenu la principale attraction de touristes visitant Batu Angus. La plupart des touristes qui viennent peuvent immortaliser ce paysage unique en prenant des photos. En outre, ils peuvent regarder et profiter de la vue du Mont Gamalama verdoyant, du paysage marin et de l'île de Halmahera qui peut être vue à partir d'une hauteur dans le quartier de Batu Angus. Sur le site touristique de 10 hectares, vous pouvez camper en attendant une belle vue sur le coucher du soleil. Malheureusement, à cet emplacement, il n'y a pas encore de restaurant, si bien que vous devez apporter vos propres alimentaires. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir, avec le titre « Batu Angus aux pierres carbonisées ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs des quatre coins du monde. Nous nous retrouvons dans le programme Apprendre l'indonésien, une rubrique qui introduit des mots de vocabulaire et des expressions en indonésien et leur utilisation dans la conversation. Le sujet d'aujourd'hui est undangan makan siang ou l'invitation à déjeuner. Écoutez d'abord le vocabulaire et les expressions liées à la conversation d'aujourd'hui et je les dis lentement. Vous pouvez les répéter après moi. Undangan. Undangan, en français, invitation. Makan siang, makan siang, en français, déjeuner. Menerjemahkan, menerjemahkan, en français, traduire. Di restoran, en français, dans le restaurant. Maaf, maaf, en français, désolé. Tidak bisa, en français, ne peut pas. Memenuhi undangan, en français, répondre à une invitation. Lain waktu, en français, un autre moment. Tidak masalah, en français, pas de problème. Aku tunggu kabar darimu, en français, j'attends de vos nouvelles. Terima kasih, Terima kasih. En français, merci. Chers amis, maintenant le vocabulaire vous sera présenté sous la forme d'une conversation entre Lia A et Rina B. A. Hai Rina, apakah hari ini kamu sibuk? Hai Rina, apakah hari ini kamu sibuk? En français, salut Rina, êtes-vous occupé ce jour? B. Ya, aku harus menerjemahkan naskah. Ya, aku harus menerjemahkan naskah. En français, oui, je dois traduire des textes. A. Aku mengundang kamu makan siang di restoran. Aku mengundang kamu makan siang di restoran. En français, je t'invite à déjeuner au restaurant. B. Tawaran yang menarik sekali. Tawaran yang menarik sekali. En français, les offres sont très intéressantes. Maaf, Lia, hari ini aku tidak bisa memenuhi undanganmu. Maaf, Lia, hari ini aku tidak bisa memenuhi undanganmu. En français, désolé, Lia, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à l'invitation. Minggu depan, kita dapat pergi bersama. Minggu depan, kita dapat pergi bersama. En français, la semaine prochaine, nous pouvons aller ensemble. A. Baiklah, tidak masalah. Baiklah, tidak masalah. En français, eh bien, pas de problème. B. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Terima kasih. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Terima kasih. En français, d'accord, j'attends de vos nouvelles. Chers amis, c'était notre rubrique Apprendre l'Irnésien de la Voix d'Irnésie diffusée depuis Jakarta.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par application sur RRI Play. Pour ce soir, on va vous présenter le groupe de musique Sela On Seven. Il est un groupe de musique populaire en Indonésie qui a été fondé le 6 mai 1996 à Yogyakarta. Ce groupe est composé de Duta Ahdiat Mojo comme chanteur, Eros Chandra de la guitare, Adam Muhammad Subarka à la basse et Anton à la batterie. Bon, chers amis, pour l'ouverture, notre rencontre dans cette édition, écoutez la première chanson intitulée Dan.
Kembali seperti sedia kala di mana kau
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson chantée par Sela On7 intitulée Dan. Cette chanson est le deuxième single de son premier album intitulé Sela On7. La composition de cette chanson est simple et réussit à faire un nouveau record. Devient le numéro 1 dans les charts de MTV Ampou pendant 40 semaines et aussi devenu la chanson de l'année pendant 2 années consécutives. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Sela On7 intitulées Seberapa Pantas.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Lihat ke arah beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Kau bertahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh, oh. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Sela On7. Vous venez d'écouter une chanson intitulée Seberapa Pantas chantée par Sela On7. Trois albums de cette groupe ont été vendus des millions d'exemplaires. Pas étonnant que le groupe surnommé Band de millions d'exemplaires. Le dernier album de Cell on 7, qui a vendu des millions d'exemplaires, est leur troisième album intitulé 07 Death. Et jusqu'à présent, les ventes totales ont atteint 1,5 million d'exemplaires. Cet album gagne le prix Les Plus Prestigieux. Bon, chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, on va écouter les deux dernières chansons intitulées Jeb, et tous les deux sont chantés par Cella on 7. Merci à tous et à bientôt.
La fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.